Bonjour, bienvenue dans le magazine Mosaïque. Nous sommes Youssef et Charlotte du lycée Marcel Gimond en stage à InfoRC. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Pasquiron de Fomervaux, un doctorant du projet Paris. Bonjour.
Bonjour.
Mosaïque.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale.
S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.
Pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr. Alexandre de Fomervaux, donc comme vous l'avez dit, je suis doctorant sur le projet Paris. Alors, assez particulier, hein. Ma thèse, elle est financée par l'ADAPI 07 et je suis un salarié de la communauté 360. Je reviendrai peut-être un peu plus loin sur ce que ça signifie. Et j'effectue ma thèse donc à l'Université de Grenoble, c'est une thèse en géographie. Mais pas vraiment à l'Université de Grenoble, c'est dans une petite antenne rurale qui se situe à Mirabel. Je ne sais pas si vous voyez Mirabel en Ardèche. Et voilà.
Et depuis combien de temps ?
Depuis juin 2024.
D'où êtes-vous originaire ?
Moi, je suis né ici. Hein. Je suis un pur produit albenacien. Je suis né à l'hôpital, à la clinique d'Aubenas. Même pas à l'hôpital, non, à la clinique d'Aubenas. À l'époque, la clinique du Vivarais n'était pas au même endroit. Je sais pas si je peux encore vraiment me considérer comme ardéchois, j'ai passé 17 ans à Lyon. C'est encore aujourd'hui la majorité de mon existence. Donc j'ai encore des raisonnements très très urbains.
Quand vous étiez adolescent, quel métier vouliez-vous faire ?
Je pense que j'ai voulu faire une tonne de trucs quand j'étais adolescent, mais peut-être que le premier truc sérieux que j'ai vraiment voulu faire, c'était professeur de philosophie. Ce que j'ai fait, au lycée Marcel Gimond d'ailleurs aussi un petit peu, et puis pas mal à Lyon. Ouais, c'était ça mes volontés adolescentes en tout cas.
Pendant combien de temps vous avez enseigné à Gimond et pourquoi avez-vous arrêté ?
Alors à Gimond, j'y ai pas enseigné longtemps, j'ai fait un remplacement, c'était un mois. Et puis en fait, après, je suis parti parce qu'on me proposait un poste d'enseignant à Lyon, sur lequel je suis resté 2 ou 3 ans, c'était en lycée agricole à l'Institut Sandard. C'est plutôt un travail aussi que j'ai commencé parce que moi, je suis un pur produit de l'enseignement public. Je viens pas spécialement d'un milieu intellectuel et je me sentais endetté envers l'école, réellement. Et pour payer ma dette, il fallait que j'aille travailler pour eux. Mais je suis jamais resté plus de 3 ans quelque part, j'ai un peu la bougeotte, et moi mon rêve de gosse c'était de faire un doctorat aussi. Ce qui est pas un métier, hein, c'est un diplôme. Mais j'ai surtout aussi arrêté dans cette optique-là, et puis parce que je voulais retrouver d'autres composantes dans mes futurs travaux.
On vous a présenté en tant que doctorant, pouvez-vous nous expliquer ce statut ?
C'est intéressant ça comme question parce que c'est un statut très particulier, c'est-à-dire que par exemple si c'est un contrat qui est de droit public, ce n'est pas mon cas, mais encore la majorité des contrats du moins en sciences humaines le sont, vous êtes en même temps un salarié de l'université et en même temps un étudiant. Vous êtes un étudiant parce que le statut de doctorant, c'est que vous êtes en train d'acquérir le grade de docteur, celui que vous obtiendrez à la fin de votre thèse. Donc là-dessus, en fait, c'est une formation, mais c'est une auto-formation. On se forme soi-même à la recherche. On ne suit pas des cours comme ça peut être de la licence au master ou même au lycée. Et en même temps, on est un salarié de l'université. On a des charges de cours à donner. On a de la recherche à faire pour l'université et un tas de tâches plus ou moins intéressantes qui sont inhérentes au travail d'universitaire.
Et quel genre de recherche avez-vous fait ?
Alors actuellement, ma thèse, elle porte sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans et par les pratiques sportives, avec un terrain spécifique qui est la ruralité ardéchoise. Avec encore un tout petit truc spécifique, c'est qu'on a annexé Montélimar. On fait du triathlon en terrain de recherche au club de Montélimar Triathlon. Mais c'est pas tout ce que j'ai fait en recherche. Quand je vivais à Lyon, je faisais de la recherche en sciences humaines à l'hôpital de la Croix-Rousse, où on travaillait sur l'amélioration des expériences patients à travers la compréhension du récit de maladie des personnes qui étaient en attente de greffe hépatique, donc de greffe du foie, et qui avaient été greffés aussi. Donc on les voyait en pré-greffe et post-greffe pour leur poser des questions sur leur histoire de maladie, pour mieux comprendre ce que c'était que le parcours type tel qu'il est vécu par le patient et pour amener de la complexité parfois dans le récit du médecin. Ce type de recherche, je suis très tourné vers le médical ou le médico-social.
Quelle étude avez-vous suivi après le bac ?
Après le bac ? Alors, mon bac, je l'ai effectué au lycée Pierre-Brossolette à Villeurbanne, donc à Lyon, enfin à côté de Lyon. Juste après, je suis parti à la faculté de philosophie à Lyon 3, et j'y suis resté 7 ans. Je suis un pur produit de la fac de philo, enfin, j'ai commencé par faire ma licence, un début de master de philosophie très général, et un master de philosophie appliquée au champ sanitaire et social, plus sanitaire que social d'ailleurs, donc tout ce qui était philosophie de la médecine par exemple.
Après tant d'études, vous n'avez pas hâte d'arriver dans le monde du travail ?
Alors, en bon prof, je vais te répondre en deux parties. Déjà, la première, mon parcours d'études est décousu. C'est-à-dire que tout le long de mes études, j'ai travaillé pour les financer. Je vivais seul dans mon appartement à Lyon. J'étais un petit peu aidé par mes parents, mais ça suffisait pas ni à payer le loyer, ni à remplir mon frigo. Donc pendant tout ce temps, j'ai été assistant d'éducation. C'est ceux que vous connaissez pour vous embêter un peu et que vous appelez surveillant ou pion. Voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. Ça m'a permis de les financer, surtout en internat. Très pratique en internat pour ça. Donc là-dessus, en fait, je travaillais déjà. Après mes études, j'ai été prof. Enfin, après mon master, j'ai été prof du vrai travail. Et puis surtout, au moment où je voulais retrouver une composante santé dans mon travail, qui était aussi en lien avec mes études, là, je suis devenu responsable de la politique du handicap à l'Agence régionale de santé, à la délégation départementale de l'Ardèche, où je m'occupais, pas tout seul, avec un service et un chef de pôle, de mettre en œuvre toute la politique publique du handicap sur le département ardéchois. Ce qui est chouette en plus quand on vient d'ici, parce que c'est un département qui me tient vraiment à cœur, c'est chez moi, il y a un lien identitaire avec ce département. Alors, en même temps, j'ai envie de te dire, toujours plus ou moins travailler, le statut de doctorant, tu travailles en même temps, enfin c'est aussi un travail et en même temps une recherche. Donc je me sens pas éloigné du monde du travail, loin s'en faut. Mais sur la question la plus intéressante là-dessus, je trouve, c'est pourquoi ce serait une fin en soi ? Pourquoi est-ce qu'on devrait languir d'aller au travail, de rentrer dans une logique métro, boulot, dodo ? Est-ce que c'est vraiment une façon de s'épanouir ? Vous verrez, quand vous ferez de la philosophie en terminale, on vous fera toujours cette éternelle dissertation « Est-ce que le travail rend libre ?» Et moi, je n'ai jamais réussi à passer honnêtement la deuxième partie. Le travail, c'est un truc d'esclave, par essence. C'est quelque chose qui fait souffrir, et franchement, si on vous donnait votre salaire pour pas le faire, soyons honnêtes, on le ferait pas.
Passons à un autre domaine. Commençons par votre projet Paris et votre participation à l'association ADAPI 07. Qu'est-ce que Paris et ADAPI signifient ?
Alors, si vous parlez des acronymes, là aussi, ça va être assez intéressant. Donc, Paris, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de S. C'est écrit comme un Paris. Et c'est Parasport, Ruralité, Inclusion. C'est tout le projet qui est porté par ce qu'on appelle le Collab 360 chez nous. Mais d'abord, je vais peut-être vous parler de l'ADAPI. Ce sera un petit peu plus clair comme ça. L'ADAPI, on est dans un cas où l'acronyme, c'est devenu le nom. Parce que si je vous définis l'acronyme, vous allez voir qu'il y a un problème. Techniquement, ADAPI, ça signifie Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés. Un terme qui se dit plus pour parler de personnes en situation de handicap et de déficience intellectuelle, là précisément. C'était une association qui était très tournée vers ça. Chez nous, l'ADAPI 07, donc, il gère des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Je pense à des IME, Institut Médico-Éducatif. Donc là, ça va être l'école pour ceux qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ont besoin d'un milieu plus sécurisé et sécurisant. Des ESAT, des endroits où seules des personnes en situation de handicap travaillent et ne peuvent pas être licenciées. Et où la question de la productivité est amoindrie. Et d'autres types d'établissements, des foyers d'hébergement, des endroits où peuvent vivre des personnes en situation de handicap qui ont besoin quand même d'un encadrement, ou foyer de vie s'ils ont besoin d'un encadrement médical. Voilà, l'ADAPI, elle gère tout ce genre d'établissements-là. C'est l'une des plus grosses associations d'Ardèche sur ces questions. C'est un des plus gros organismes gestionnaires d'Ardèche. Certainement avec Bethany et La Page. Vous avez peut-être entendu parler. Ensuite, Dans chaque département, on trouve depuis 2020 un truc qui s'appelle la communauté 360. Dans les départements où il y a une métropole type le Rhône, et il y en a deux, peut-être même plus en Ile-de-France, c'est-à-dire que vous avez une communauté 360 pour Lyon et une communauté 360 pour le reste du Rhône. Qu'est-ce que c'est que la communauté 360 ? La communauté 360, c'est un truc qui a été mis en place après le Covid et c'est quelque chose de merveilleux. Pourquoi ? Parce que vous êtes une personne en situation de handicap, vous avez un risque de rupture de parcours de soins ou scolaire, vous vous sentez isolé, vous n'avez pas de solution, qu'elle soit institutionnelle ou de travail ou de projet, des choses qui mènent à l'exclusion sociale, à la communauté 360, vous pouvez les appeler et ils vous aideront à établir un parcours qui puisse être institutionnel, mais ça peut être un autre parcours de vie, à trouver du travail ou, c'est mon travail là-bas, à trouver une solution sportive, si ce que vous voulez c'est faire du sport, mais vous savez pas ce que vous pouvez faire, et vous savez pas où vous pouvez en faire. Ça c'est aussi une possibilité, ou même mieux, on paye quelqu'un pour ça, et ça c'est beau, vous allez voir la magie du service public. Vous êtes une personne en situation de handicap, on va dire toi. Toi ton rêve, c'est de traverser les steppes de Mongolie à cheval, on va dire ça. Et tu sais pas comment faire, mais à la communauté 360, tu peux trouver quelqu'un, une assistante projet de vie, du nom de Manon actuellement, qui va t'aider à monter ce projet, qui va t'aider à réaliser ton rêve de traverser les steppes de Mongolie à cheval. Bon, ça, c'est communauté 360. Le génie de l'Ardèche, ça a été d'y adosser un laboratoire, qu'on appelle le Collab 360. C'est un laboratoire d'innovation médico-sociale. Dans ce laboratoire-là, en fait, on trouve essentiellement une docteure en géographie, du nom de Valérie, qui va s'occuper de réunir les problématiques du territoire. C'est-à-dire qu'une personne qui rencontre une problématique territoriale peut saisir le collab à travers la personne de Valérie. Exemple simple, pour que ce soit très clair. Laurent Billot, donc le directeur service et développement actuel de l'ADAPI 07, avait rencontré le problème de l'accès au sport des personnes en situation de handicap. C'est quand même dingue. À chaque fois qu'on leur propose de faire du sport, on leur propose ça sur des horaires qui sont pas en communauté avec les autres. On dit ouais, vas-y viens mais de 10h à 11h le lundi sur des horaires où il y a que des personnes handicapées quoi. Il y a quand même un problème. Ce problème-là est territorial. Bon, on a des gens qui veulent faire du sport, qui veulent faire du sport en mixité. On leur propose pas ça. Bon, il a saisi le collab 360 pour dire on a cette problématique là, comment est-ce qu'on peut permettre aux personnes en situation de handicap de faire du sport avec n'importe qui et sur le territoire ardéchois, est-ce que c'est plus compliqué en ruralité. On a réuni des gens, plein de gens, pour travailler sur cette question, d'abord intellectuellement, dedans des acteurs du sport, des acteurs du médico-social, des personnes concernées, parce qu'on peut pas réfléchir aux solutions pour les personnes en situation de handicap sans les personnes en situation de handicap elles-mêmes, des personnes du milieu associatif, plein de gens, pour se dire qu'est-ce qu'on va monter comme expérimentation pour essayer de mettre ça en œuvre sur le territoire. Et ça a pris la forme de Paris, c'est-à-dire une recherche doctorale et 6 clubs en Drôme-Ardèche, parce qu'on a juste Montélimar dans la Drôme, hein, où on fait du triathlon, mais on fait également de l'escalade à Vallon-Pont d'Arc, du cirque à Joyeuse, du kayak au Pouzin, du vélo à Annonay et de la randonnée à Burzet. On couvre assez bien le territoire ardéchois avec une petite zone blanche sur Aubenas, où là on va proposer des expérimentations de sport en mixité, en dit valide, toujours en mixité. Le but, c'est pas de faire des activités physiques adaptées où il y aura que des personnes en situation de handicap entre elles. Ce qu'on veut faire, c'est société ensemble.
Avant d'arriver à cette conclusion, ça vous a pris combien de temps ?
Ça a commencé avant moi, hein, c'est-à-dire que le GIE, il a commencé... GIE pour groupement d'intérêts et d'études, donc cette question-là portée au Collab 360, ça a commencé en 2023, début 2023. Et puis, il a fallu trouver des financeurs, voir quelle forme ça prendrait. Et c'est à partir du moment où ça a pris la forme aussi d'un projet de recherche, où ils ont décidé d'embaucher un doctorant. Et c'est moi qui ai été pris en juin 2024.
Et vous, que faites-vous dans cette structure ?
Eh ben, ce que je fais dans cette structure, donc, parce que moi j'appartiens donc à deux structures en fait, à la communauté 360 portée par l'ADAPI 07, et là ce que je vais y faire par exemple c'est aider des personnes en situation de handicap à avoir accès au sport, Donc essayer de repérer des gens qui n'ont pas de solution sportive sur le territoire et les accompagner vers une solution sportive, mais quitte à me déplacer avec eux en fait. Ça c'est ce que je vais faire à peu près pour cette structure-là. Mais c'est vraiment pas la majorité de mon temps de travail. La majorité de mon temps de travail il se situe à Mirabel, à l'université. Et ce que je vais faire, c'est essentiellement ma thèse, mon terrain de recherche, donc du sport tous les soirs en mixité en divalide, de la rédaction de thèse, de la rédaction d'articles, donner quelques cours à l'université de Grenoble, voilà. C'est ça la majorité de mon travail, c'est le travail d'universitaire.
Quand a-t-il débuté et quand va-t-il se terminer ?
Donc le projet Paris, il a débuté en 2023, et puis il se terminera normalement avec la fin de ma thèse, donc la fin de mon contrat, juin 2027, il me reste un an.
Tous les différents handicaps sont-ils concernés ?
Oui, hein, ça c'est notre volonté claire, on prend tout le monde. On prend tout le monde, donc handicap moteur, psychique, personne valide aussi, en fait. Tu veux venir faire du sport avec nous et faire société ensemble, vas-y viens. Voilà.
On a eu les Jeux Olympiques à Paris en 2024. On a pu voir beaucoup d'athlètes aux Paralympiques qui ont performé. Est-ce qu'un dispositif comme Paris peut favoriser cette situation ?
C'est particulier parce que nous, on fait pas de... Le but, c'est pas intrinsèquement la compétition. On fait ni du sport santé, ni du sport compétitif. On fait ce qu'on appelle du socio-sport. On fait du sport, on pourrait faire autre chose. Le but, c'est de faire un truc ensemble. Cela dit, on a quelques athlètes qui performent. Là, on a un jeune qui courait avec nous à Montélimar, qui vient de gagner les championnats de France du 100 mètres et du 200 mètres en athlétisme, en catégorie pour personnes atteintes d'autisme. Donc, on a des compétiteurs, on a des pas compétiteurs. Oui, enfin, je pense que de toute façon, faire du sport en mixité, peut-être en amener certains à se découvrir une vocation pour la performance sportive. Mais ce n'est pas le but initial.
Quelles ont été vos motivations pour vous investir dans cette action ?
J'ai quand même la fibre du handicap, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai. C'est des questions qui ne m'intéressaient pas il y a un bon moment. En 2016, mon père a fait un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé handicapé, avec une dysphasie... problème de mobilité dû à un cœur maintenant dysfonctionnel. Et j'ai passé beaucoup de temps à l'observer. C'est d'ailleurs tout ça qui a lancé mes projets de recherche hein, initialement. J'ai passé beaucoup de temps à l'observer et à observer cette image qu'il avait de lui-même qui était en train de se dégrader. Cette idée que petit à petit, j'avais l'impression que lui-même avait la sensation de devenir inutile, que lui-même avait la sensation de devenir moins valeureux. Et je me suis dit, mais en fait... Ok, il est malade, mais il y a un autre truc qui est malade. Sa vision de la société, elle est pas, ça marche pas, ça colle pas. Là, il a la vision d'une société qui est malade, et je crois que notre société l'est. Cette idée que si on n'est pas productif, on est bon à rien. Et c'est contre ça que je me bats aussi, et c'est ça qui me motive. Me dire, ok, ces personnes-là, peut-être qu'elles vont pas travailler. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont rien à nous apporter ? Pour ça, faut essayer d'aller faire société avec elles, quoi.
Qu'est-ce qui vous motive à aider les personnes en situation de handicap dans le monde du sport ?
Parce que je le fais pas dans le monde de l'emploi. Le secteur de l'emploi, il est embolisé pour les personnes en situation de handicap. On est sur un taux de chômage qui est deux fois supérieur. Je te parle juste du chômage, faut être inscrit à Pôle emploi. Sur le taux d'inactivité, il est 10 fois supérieur. Bon, déjà, c'est pas facile d'avoir l'emploi qu'on veut quand on est valide. Quand on est handicapé, c'est encore autre chose, quoi. Donc, il se trouve quand même que le travail, c'est le premier vecteur de socialisation. Les gens que tu vas rencontrer, la plupart du temps, sera tes collègues de travail. Il y a un tiers des couples aujourd'hui qui se forment sur leur lieu de travail. Et certainement plus si on prend tout ce qui est le parasocial autour du travail, quoi, des potes de collègues, etc. Donc, quand tu travailles pas, tu peux être en situation d'exclusion sociale. Bon, la question du travail m'intéressait moins. Je me suis dit, ok, mais il faut quand même qu'on trouve un moyen de faire société ensemble. Le deuxième vecteur d'insertion sociale, c'est le loisir. Je me suis dit, ok, peut-être qu'on n'arrive pas à travailler ensemble. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller faire de la grimpe ? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller courir, d'aller nager ensemble ? Je crois rien, en fait, quoi.
Combien y a-t-il de partenaires avec qui vous avez travaillé ?
Oh, Fatch, il y en a vraiment beaucoup. Au-delà des clubs donc, que j'ai cités tout à l'heure, hein, des six clubs, on a également tous les membres de réflexion pour le groupement d'intérêt et d'études, tous ceux qui animent intellectuellement Paris, donc les acteurs du sport et des pouvoirs publics du département, du médico-social, des personnes concernées. Là, on peut se compter parfois une trentaine de personnes, parfois une quarantaine, juste pour ces temps de réflexion ou des temps de séminaire, etc. Et puis nos financeurs, quoi, qui ont été nos premiers partenaires, parce qu'on se rend pas compte, mais Paris c'est cher, c'est vraiment cher. Rien que de la part de la FIRA, qui est de la Fondation Internationale sur la Recherche Appliquée sur le Handicap, c'est 100 000 euros, même 130 je crois. De la part de la région Rhône-Alpes, c'est 80 000 euros. Petite histoire drôle, on a reçu le prix coup de cœur de la Fondation Jacques Chirac, donc j'ai un trophée en forme de pomme sur mon bureau, parce que Jacques Chirac mangeait des pommes. Vous n'avez peut-être pas cette référence parce que vous êtes un peu jeune, mais ça viendra. Qui nous a donné 3000 euros. On a même un acteur privé, Maxime Pergola, qui nous a donné 1000 euros. On a eu le soutien financier, je ne sais plus à hauteur de combien, de la conférence régionale du sport. C'est assez cher en fait comme projet. Et on l'a même pas bouclé économiquement. On est encore à perte.
Qui fait partie de ce projet et qui le dirige? Êtes-vous un acteur majeur dans Paris?
Alors, on a tous les membres du GIE qui font partie du projet. Tous les clubs de sport qui nous rejoignent font partie du projet. C'est pas un projet qui est fermé en plus. Si on veut nous rejoindre, on peut nous rejoindre. C'est très facile. Cela dit, après, il y a un groupe pilote un peu plus restreint qui est composé du directeur scientifique du projet Paris, qui est mon directeur de thèse, Pascal Mao, qui est composé de Valérie Poudret, qui est donc la personne dont j'ai parlé pour le collab 360. On a Mélodie Roche, qui est ingénieure d'études à l'université de Grenoble, et moi-même. Cela dit, sur le projet, en fait, je suis le seul à être à temps plein. Donc, de fait, c'est très largement moi qui l'anime et qui anime toute l'archipel des acteurs pour qu'il y ait de l'interconnaissance ou qu'il y ait la meilleure connaissance du terrain, puisque, par exemple, je suis le seul à aller faire du terrain de thèse et à aller pratiquer tous les soirs avec eux.
Comment s'est passé le déroulement du projet ? À quelle participation avez-vous pris part pour le mettre en œuvre ?
C'est pas moi qui l'ai mis en œuvre, hein. Il existait un petit peu avant moi. Cela dit, à partir du moment où je suis arrivé, j'ai participé, avec d'autres personnes, à sélectionner les clubs qui seraient partenaires. Et ensuite, la majorité de tout ce qui relève de la donnée scientifique, c'est moi qui la récolte. Et c'est moi qui l'a produit à partir des observations que je fais dans les clubs, mais également des entretiens que j'ai avec les pratiquants, les encadrants. Et quand je dis les pratiquants, c'est valide ou non, quoi. Enfin, c'est ça mon rôle essentiellement.
L'interview touche à sa fin. Voulez-vous rajouter quelque chose ?
Je vais surtout réappuyer là-dessus. Hein. Nous, ce qu'on veut avec Paris, c'est montrer qu'on peut faire société ensemble. Il y a des gens, collectivement, avec lesquels on a accepté qu'on ferait pas société. Je te prends un exemple classique, il y a un gamin qui va à l'école, il va pas avec toi, il va à l'IME. Quand il va sortir de l'IME, il va pas aller travailler dans une entreprise comme toi, il va aller à l'ESAT, il y aura que des personnes handicapées. Il va pas aller vivre dans l'appartement en face du tien, il va aller en foyer d'hébergement, il y a que des personnes handicapées. Et puis quand il va partir en vacances, il va pas prendre le même séjour que toi, il va pas aller visiter Bali ou si peut-être, mais en séjour adapté, avec des personnes handicapées. Bon, tu vois, en fait, il y a des gens avec qui on s'est dit qu'on ferait pas société. C'est à moi, là-dessus, de vous poser une question. Vous les avez choisis, ces règles-là ? Moi non plus. Mais alors, pourquoi on continue à les suivre ? Paris, c'est ça. C'est se dire, on va arrêter de suivre ces règles qu'en fait, finalement, aucun d'entre nous n'avons choisi, quoi.
On termine par la question traditionnelle. Que pensez-vous des radios en milieu scolaire comme InfoRC ?
Déjà, en tant qu'ancien enseignant, moi, je suis toujours heureux de participer à des trucs qui sont faits par des jeunes. Et puis, je pense que c'est important parce que vous prenez des fréquences, littéralement, vous prenez des fréquences radio à un moment où elles se font rares, à un moment où elles sont pas toujours libres, où il y en a de plus en plus qui sont achetées par des milliardaires pour faire de la propagande politique. Je crois que vous ayez un espace de parole et que vous preniez un espace de parole, c'est un geste citoyen qui est fort. Ça, il faut continuer.
C'était Charlotte et Youssef, deux lycéens du Gimon, en stage à Info RC. Aujourd'hui, nous avons accueilli Alexandre Pascoran de Fomervaux de l'association ADAPI 07 pour son projet Paris. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à notre invité.
Merci à bientôt.
À au revoir.
Chaque semaine, une interview pour mieux connaître les acteurs de la vie locale. S'ouvrir sur le monde, sur les cultures, découvrir leur parcours.
Parce que s'écouter les uns les autres, transmettre, c'est apprendre à vivre ensemble.